Non loin de Louxor et Carnac, la vallée des rois cache bien sûr des mystères et des secrets, mais Maurice Efti va plus loin que les secrets. Il vous fait rencontrer le temps, l'histoire et la magie d'un pays, l'évasion. Vous avez fait vos valises pour partir en Égypte et vous avez fait vos valises en musique. Avec Mohamed Hammam, j'ai interrogé la lune. Où échoue le soleil au zénith ?
Enfin, la dernière marche arrive finalement sous un soleil absolument cuisant à gravir, à terminer cette montée d'une falaise qui, elle est belle parce qu'elle surplombe véritablement un des plus beaux temples de l'Égypte ancienne, le temple de Deir el-Bari. Vous savez, c'est une cascade, c'est une chose curieuse, comme une suite de marches avec des colonnades. Oh, tout le monde a déjà vu ce temple. Ce temple qui a l'impression, enfin, il donne en tout cas l'impression de vous ouvrir les bras, et en même temps il est fermé derrière par une ouverture purement naturelle. Cette immense falaise qui s'arrondit avec ce côté rougeoyant, ce côté sauvage qui entoure de manière harmonieuse cette construction humaine. C'est un des plus beaux temples consacrés à la reine Hatshepsut, une des plus grandes reines, un mec en Égypte, une femme, un pharaon, quelqu'un qui a dirigé l'Égypte comme personne d'autre après ou avant les Ramsès II ou les Akhenaton. Si je parle de cela, c'est parce que c'est un endroit qui m'a toujours fasciné. Parce que dès qu'on se retourne, quand on est au sommet, qu'on observe ce temple qui descend comme cela, on pense à ce qui est derrière nous. La vallée des reines, bien sûr, mais pour une Hatshepsut, la vallée des rois. C'est-à-dire que cette femme qui va être enterrée comme tous les hommes dans cette vallée sacrée, qui va devenir l'endroit le plus fou de l'Égypte ancienne, l'endroit où l'on voudra se cacher de tout le monde, un univers minéral d'une blancheur aveuglante avec cette montagne désertique qui ondule autour de moi. Puis il y a pas de trace, mais vraiment pas une trace de végétation. Et quand on pense à l'Égypte, on pense au Nil, on pense au contraire à la richesse. Non, là, c'est quelque chose qui est totalement intemporel. Vous êtes en dehors du monde. C'est vraiment la limite de l'univers. Ce que je rêvais d'atteindre, j'avais chaud, c'est vrai, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui encore la maison de Champollion. Champollion, tout le monde sait qui c'est. C'est celui qui a découvert les hiéroglyphes, c'est celui qui a fait la campagne d'Égypte à l'époque de Bonaparte. Et ce que je voulais, c'était me faire ouvrir, parce qu'il fallait une autorisation, la tombe de Ramsès IV, où Champollion a vécu pendant plusieurs mois. Et là, j'allais me laisser enfermer, oui, parce que le garde était derrière moi, il va tourner la clé dans la serrure, et je vais me trouver seul dans cette pénombre. Et il y a un côté sépulcral, c'est vraiment l'endroit. Là, je suis descendu au royaume des morts. Je suis là où le soleil bascule. C'est une terminologie qui est bien égyptienne. Je voulais revivre en fait les premières heures de l'égyptologie. Et mes yeux sont encore en pleine lumière, ils sont pleins de soleil. Il faut que je m'accoutume à la pénombre et tout à coup, petit à petit, je peux parcourir les fresques. Au plafond, je suis le parcours du soleil parce que il est représenté de façon astronomique, et on se rend compte que c'est un parcours que l'homme devra suivre dans l'au-delà. On le voit qui nous accompagne véritablement dans ce cheminement après la vie. Je retrouve toutes les divinités infernales sur les parois. Je repense à Champollion, sans qui rien ne serait, rien n'existerait aujourd'hui encore en Égypte. On ne saurait rien de tout cela. Et je sais qu'il a dormi là, à quelques mètres de moi, qu'il a travaillé dans cette vallée, qu'il est monté souvent là-haut, sur ce balcon, cet endroit fou, d'où je viens, d'où j'arrivais, sur ce sommet de la montagne où l'on peut, c'est vrai, admirer tout Thèbes, la rive gauche du Nil, et en face Louxor, Karnak, le Nil, et à cette heure, ce balai incessant des félouks et des bacs qui glissent sur ces eaux toujours tranquilles. Plus loin, il y a les félas qui travaillent. Ils travaillent dans des champs. Il y a ces bosquets d'acacia qui... une odeur assez fantastique, l'acacia, c'est vrai. Il y a ces chèvres, des oies, des échassiers, des scènes de pêche. Je rêve un peu, c'est vrai. Je suis devant des bas-reliefs qui sont vieux de plusieurs millénaires. Et lorsque Champollion, pour la première fois, va se retrouver dans une tombe, je prends par exemple une tombe de courtisan à Saqqara, il va admirer avec un étonnement. C'est normal qu'on soit étonné. Ces superbes peintures qui recouvrent entièrement les murs, car elles évoquent des phases de la vie des champs, ces mêmes peintures. Les travaux de la ferme, avec les labours, les semailles, les récoltes, la mise en réserve du grain. Et puis il y a la basse-cour, il y a le bétail en pâture. C'est sûr que ces décorations nous intriguent. Est-ce que c'est quelque chose de bucolique? Non, pas tout à fait, parce qu'en même temps, on voit l'abattage du bétail, on voit sa préparation culinaire. Donc, la conclusion, c'est que le thème initial de toutes ces scènes n'était pas pour la vie champêtre, pas pour l'alimentation, c'était destiné à la faim, c'est-à-dire à la nourriture du Ka. Le Ka qui, lui, vivait encore dans l'au-delà, ce double de l'être. Et je prends un exemple, les parents venaient, enfin, on désignait des gens pour venir vous offrir chaque jour de cette nourriture, ces repas qui pouvaient rassasier ainsi chaque jour le mort. Puis si par hasard vous ne veniez pas, si par hasard on oubliait de vous aider à traverser l'éternité, eh bien, on pourrait regarder ces peintures, on pourrait se nourrir de ces fresques et de ces sculptures. C'est ainsi que le soleil va continuer à briller, même au-delà, même après la mort. Et j'étais moi revenu au sommet de ce plateau, abrité sous mon chapeau, seul. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui font ce trajet depuis le temple et qui osent grimper cette falaise. Et je dominais le temps, je dominais le monde, un monde qui avait été totalement inventé par des pharaons qui, à l'époque, étaient vraiment tout puissants. Quand on se retrouve devant Khéphren, qu'on est à Mykérinos, à Gizeh, on se pose toujours la même question. Pourquoi ces pharaons se donnaient-ils tant de mal? Ont-ils dépensé tant d'argent, enfin surtout ces ressources de leur pays pour entasser des montagnes et des montagnes de pierres? Il ne faut pas être spécialiste pour se rendre compte du travail absolument stupéfiant que représente la construction. Il faut se trouver devant ces pyramides pour comprendre pleinement pourquoi les anciens parlaient, ou plaçaient en tout cas, les pyramides en tête des sept merveilles du monde. Je vous dirais que c'est plutôt le soir, curieusement. Même si là, nous sommes en pleine chaleur de midi, c'est le soir qu'il faut s'y rendre pour jouir véritablement de l'effet que vous donnent ces trois silhouettes. Et attention, choisissez votre soirée. Choisissez un clair de lune. C'est absolument sublime. Ce qui est grandiose sous le soleil, au point d'en devenir, moi je dirais un peu écrasant, quand on est vraiment au pied de Gizeh, lorsqu'on s'est approché, parce qu'on n'a aucune idée de la dimension de ces pyramides avant d'être devant le bloc. Vous savez, exactement à l'angle. Et vous levez les yeux et vous vous dites, ça n'est pas possible. Mais quand vous êtes là, la nuit, à part ce côté inhumain du jour, tout à coup, il y a quelque chose de plus intime, de plus insolite, de plus proche. Et puis il y a surtout un petit goût supplémentaire, en tout cas aujourd'hui, celui de l'interdit, parce que, vous allez suivre le son et lumière et vous allez tenter de vous échapper derrière le sphinx, enfin, vous allez essayer de vous retrouver dans un petit endroit sympathique, et vous allez surtout découvrir que, entre midi et minuit, il y a aussi une différence. Il y a un son que vous n'avez plus le jour. C'est-à-dire, vous allez vous trouver, d'abord, il n'y aura pas de touristes. Et puis ensuite, il y aura des chiens à la place des touristes. Il y aura un son de base. Et il y aura surtout cette ville du Caire qui est en contrebas et qui résonne maintenant d'une façon complètement différente. Les bruits de la nuit sont tellement différents. Et il y a des lumières si vous avez le courage de grimper. C'est interdit, d'accord, essayez quand même. Enfin, montez sur quelques blocs et puis observez le tout. Vous allez voir ce côté lumineux. Il y a une ambiance vécue qui est totalement différente. Une ambiance que je pourrais même... Allez, on pourrait presque repartir à l'époque de Petrie. Petrie, c'est un archéologue qui a vécu véritablement à Gizeh et qui s'est installé dans une tombe vide, tout simplement, où il y avait déjà eu un fouilleur avant lui. Il avait placé une porte, il a mis un verrou et lui, il va compléter son installation avec un simple réchaud à alcool. Et aussitôt, il va se sentir chez lui. Et tous les soirs, Petrie, au coucher du soleil, il va faire un peu comme je vous le disais, c'est-à-dire après le départ des touristes, il y en avait déjà au 19e siècle, il va grimper, non pas sur, mais à l'intérieur des pyramides. Il en choisit une, il se dévait, parce que vous savez qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur des pyramides la nuit, parce qu'il faut supporter ce côté très étouffant, et il va travailler jusqu'aux alentours de minuit, 1h du matin. Ce sont les meilleures heures pour découvrir l'intérieur, qui de toute façon est obscur. Et il va ramper dans une douzaine de pyramides, comme tous ces émules. Je vous dirais qu'il n'y a plus beaucoup de mystère après cela. Ces tombes, malheureusement, ne vont rien fournir à ces fouilleurs, mais on va petit à petit connaître un peu ces constructions étranges. Et à l'époque de Petrie, la seule sensation que l'on avait jamais ressentie, à mon avis, c'est celle qui suppose le fait de pouvoir rentrer dans une tombe inviolée, de se retrouver tout à coup en contact avec un morceau d'éternité. Et ça, c'est quelque chose... Allez, imaginez que vous puissiez pénétrer dans une maison citadine qui est fermée pour l'été. Imaginez une pièce sans air, un petit côté guindé, le côté silencieux aussi du mobilier, l'impression que vous venez, déranger le fantôme du lieu. Et la première chose, c'est que vous aurez d'abord envie d'ouvrir les fenêtres pour ranimer la chambre. Mais voilà exactement ces sensations que les hommes ont ressenties devant les vestiges qui étaient enfermés depuis 3 millénaires. Je pense par exemple à la tombe de Yuha. Yuha, c'est un des grands nobles de la vallée des rois. Et c'est vrai que quand on se trouve comme ça devant plusieurs fauteuils, qu'on se trouve devant des meubles en bois sculpté, que l'on voit des choses qui sont plaquées de feuilles d'or, dans un coin plus éloigné, il y a cette poussière qui ternit un peu l'éclat de nombreux autres objets en or, notre conception humaine, notre conception du temps, elle est totalement faussée. On peut pas songer que cela ne puisse avoir plus d'un an ou deux. Il n'y a pas 3000 ans que tout est disposé comme cela dans cette pièce. Ouvrez les fenêtres. C'est vrai que c'est la seule idée, faire rentrer le soleil et la lumière dans cette obscurité. Et si je vous parle de cette première découverte d'un courtisan, de quelqu'un d'important, si je vous parle de ce mobilier, c'est parce que j'ai envie de vous faire vivre à l'époque pharaonique. C'est-à-dire que il est vrai que quand on va découvrir les momies, par exemple, des plus grands d'Égypte, je parlais de Ramsès II tout à l'heure, à propos d'Hatshepsut, c'est vrai que lorsqu'on va les ramener en pleine lumière, lorsqu'ils vont finalement se retrouver sous leur soleil Dieu, on peut concevoir que ce soit un choc, non seulement historique, mais qu'en même temps, tout à coup en surface, comme sur notre terrasse tout à l'heure, on voit revivre le monde, une fois de plus, les minutes, les heures, les mois, les années, les siècles n'ont plus le même poids.
Al-Nala Al-Ali et les musiciens du Nil, ça c'est l'Égypte. Et l'Égypte sur Radio Suisse Romande, la première, c'est encore les pharaons, les pyramides, le voyage, Zénith, Maurice Efti.
Si je suis monté si souvent sur cette terrasse, sur ce balcon, sur cet endroit qui surplombe Deir el-Bari, cette chute, cette cascade qu'un architecte génial a mise au point avec ce décor de falaise, c'est parce que c'est tout près d'ici qu'on a fait peut-être une des plus grandes découvertes de l'Égypte. Peut-être pas au sens richissime du terme, mais en poids, en poids spécifique, en histoire, au sens large. Eh bien, c'est justement près de cet endroit, dans cette vallée des rois, que une famille d'Arabes, parce qu'ils étaient plusieurs, une famille pauvre, les Abdelrazoul, avaient découvert quelque chose, on ignorait quoi. Mais ce qu'ils savaient, c'est que les touristes étaient très friands à cette époque de petits objets, de petites antiquités. Et alors, petit à petit, on a vu apparaître sur le marché des objets qui sortaient véritablement de l'ordinaire. Et finalement, les officiels ont été tenus au courant de cette affaire. Ils ont deviné qu'il y avait certainement un trésor là-dessous. Vous m'avez compris, cette famille, petit à petit, vendait des pièces qu'ils avaient réussi à découvrir, à voler dans une tombe. Et finalement, on va arrêter toute la famille. On va les torturer. À l'époque, on n'y va pas par quatre chemins parce que ces fouilleurs clandestins souvent découvrent des choses incroyables et souvent la science a perdu des renseignements fantastiques, comme si on arrachait les pages d'un livre et que pour toujours cette histoire-là se perdait. Et finalement aussi, on pourrait dire que cette fois, les fonctionnaires vont avoir de la chance parce que un d'entre eux va parler sous la torture et il va demander qu'on l'accompagne vers la cachette. Voyez un peu le tableau. Ils sont trois, ce n'est pas important de savoir qui est là. Mais il y a quand même Brooks, qui est l'archéologue en chef, et qui va faire lui-même la découverte, ou plus exactement avoir ce premier regard sur les choses. Vous partez, vous êtes juste à quelques mètres de ce temple que nous observons depuis notre colline et depuis notre falaise. Et finalement, à la fin, dans une région complètement désertique, puisque vous êtes un peu en dehors de la vallée normale, c'est-à-dire l'endroit où l'on enterrait par logique, eh bien, on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est encore une histoire de procès parce qu'il en avait marre d'être torturé? Et le guide indique tout à coup un puits sombre et profond au moment où on n'y croyait plus. Et là, c'est vrai qu'on est sceptique encore. Brooks va quand même se décider à se risquer au-dessus de ce puits. Je crois qu'il faisait une bonne dizaine, peut-être même 15 mètres de profondeur. Il va descendre avec une corde. Vous passez de la lumière absolue à la nuit et à la fraîcheur. Et là, on va descendre et tout au fond, naturellement qu'il va d'abord trébucher, avoir un peu de peine à s'y retrouver. Il va devoir suivre un passage qui est bloqué et tout à coup, il tourne au coin. Et là, c'est normal. Avec sa torche, il reste bouche bée parce que devant lui, il trouve une quantité de sarcophages qui ont tous été entassés pêle-mêle à cet endroit. Et revenu de sa stupéfaction, il va suivre un autre couloir. Et là, dans une chambre, il voit s'amonceler non seulement quelques sarcophages, mais des choses qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est-à-dire des objets de dimension incroyable, prodigieuse, ciselés avec cet art infini, placés debout contre les murs, couchés sur le sol. C'était véritablement les emballages divins de tous les grands pharaons qui manquaient à l'appel. Toutes ces tombes qui avaient été retrouvées vides et qui, là, tout à coup, se révélaient par leur contenu le plus fou. C'est-à-dire que non seulement il avait le cœur qui battait, mais il savait lire les hiéroglyphes. Et tout à coup, il se rendait compte qu'il avait devant lui Ramsès II et qu'il avait tous ses successeurs et qu'il avait tout à coup une quarantaine de pharaons de l'Égypte ancienne. C'était bien sûr la plus grande découverte du temps. Alors, que faire maintenant? Imaginez-vous au fond de ce puits, au fond de ce couloir, avec des sarcophages complets. Certains, ils ne le savaient pas à ce moment-là, vont demander 16 ou 20 hommes pour être simplement déplacés, transportés. Bien sûr, ils avaient été tous cachés là, un peu par miracle, parce que les prêtres s'étaient dit, si ça continue, parce qu'il y avait déjà des voleurs à l'époque pharaonique, si ça continue, il n'y aura plus une seule tombe inviolée. Alors ils ont ramassé tous les pharaons et les ont cachés totalement en dehors de tout. C'est ça qui les a sauvés. Et finalement, eh bien, on va prendre des risques, bien sûr, on va demander aux habitants du village, de cette famille arabe, des gens qui sont tous sympathiquement des fouilleurs clandestins, des voleurs de tombes, on va leur demander quand même d'aider à transporter ces sarcophages. C'est vrai que dans ce village, depuis le XIIIe siècle avant notre ère, ils étaient tous habitués à prendre le meilleur. Et là, il y avait un danger, parce que, vous savez, avec un simple sarcophage qui passe, on pouvait piquer quelque chose, on pouvait enlever un bijou d'une momie. Eh bien non, il va se passer quelque chose d'étrange. On va engager 300 ouvriers. Et là, les Arabes ont l'impression qu'ils allaient... Ils ont compris tout à coup cette responsabilité fantastique qu'ils avaient. C'était quelque chose d'un peu, je dirais, une espèce de voix intérieure patriotique ou pharaonique, comme vous voulez. Et ils ont senti qu'il fallait charger cette cargaison sur des felouks, sur des bateaux, et les faire descendre à la voile vers le Caire. Je vois l'image, hein. Vous la voyez aussi. Vous imaginez le Nil avec ses immenses sarcophages posés sur ses barques qui petit à petit se sont enfoncées dans l'eau. Vous voyez ses voiles qui s'ouvrent. Vous voyez tous les habitants de ce village qui sont là et qui accompagnent. Il y a les femmes. Les femmes, elles pleurent, elles s'arrachent les cheveux exactement comme lors des grandes funérailles, exactement comme elles l'auraient fait pour un parent. Et les hommes, ils criaient, ils tiraient des coups de pistolet en signe de désolation. On est en train de revivre exactement ce que l'on avait vécu à l'époque pharaonique. Et ce cortège fantastique descendait maintenant vers le Caire. Et vous avez peut-être eu la chance, il y a quelques années, de voir encore le visage réel de Ramsès II. Aujourd'hui, grâce à la présidence, on les enferme dans le musée, on les a cachés de nouveau. Carter tremblait juste au moment où il avait cet outil et que maintenant il allait pouvoir forer juste un petit trou dans cette porte, juste au moment où il allait introduire une bougie dans la pièce. Tout d'abord, il n'a rien vu, mais ses yeux vont s'accoutumer petit à petit à la lumière. Des détails émergeaient lentement du brouillard, des animaux étranges, des statues, de l'or partout, l'éclat de l'or. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Ça, c'était son collègue, c'était son ami Carnavon qui était venu exprès pour l'ouverture de la tombe de Toutankhamon, parce qu'on lui avait dit depuis Londres qu'il fallait rentrer immédiatement. Et oui, écoutez, ce sont des merveilles. Là, c'est la seule chose qu'il arrive à prononcer, parce que c'était un moment absolument fou, parce qu'il avait de la peine à articuler, bien sûr. Et c'était un spectacle étonnant quand même qui s'offrait à ses yeux, parce que c'était une pièce qui ressemblait en fait à un musée. Il y avait trois couches en bois doré, il y avait des choses sculptées en forme d'animaux un peu monstrueux, il y avait des statues de rois face à face, comme des sentinelles en fait. Il y avait aussi une autre chose qui lui attirait directement le regard, c'était des coffrets incrustés, des vases d'albâtre, il y avait des autels, des lits, des chaises, enfin un fatras absolument fou. La pièce était pleine, complètement remplie. Il y avait des chariots qui étaient complètement démontés, qui avaient été retournés. Alors, bien sûr, quand il a vu tout cela, ils se sont dit, mais enfin, il n'y a pas de sarcophage, il n'y a rien du tout. N'oubliez pas, nous n'avons ouvert qu'un petit trou, vous n'avez qu'une bougie pour apercevoir tout à coup, dans ce silence de 3000 ans, ce qui, en 1300 et des poussières avant Jésus-Christ, avait été placé, je dirais presque en débandade. Parce que là, c'est le gros problème de ces deux hommes, c'est de se dire, est-ce que cet endroit a été violé ? Est-ce que quelqu'un est venu avant nous ? Puisque depuis le début de leur descente dans la tombe de Toutankhamon, tous les sceaux étaient violés. Alors là, il y a un autre problème qui se pose, c'est de savoir où est la suite, s'il y en a une, puisqu'il manque le sarcophage. Ça, c'est dramatique. Là, il y a un moment de peur, de panique, peut-être. Et finalement, ils font une réflexion, ils cherchent, et ils vont trouver qu'il y a une porte, deux statues, et une porte scellée derrière. Et là, malheureusement, ils voient qu'elle a aussi été touchée, cette porte. C'est quelque chose qui doit être terrifiant, parce que vous êtes à ce moment-là archéologue, nous sommes dans les années 20 de notre siècle, on devient scientifique, et il va falloir d'abord vider toute cette pièce, photographier chaque pièce, attendre des semaines avant d'ouvrir cette porte qui est violée et de savoir s'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est un petit côté dramatique, parce que si elle a été ouverte comme les précédentes, ils ne savent pas s'il y aura quelque chose au bout. Parce qu'après tout, quand vous êtes pilleur de tombes, vous allez vers le meilleur, vous cherchez l'or, vous cherchez l'absolu, vous cherchez le but qui va vous rapporter un maximum. Et là, il faudra attendre, il faudra être patient. Et Carter, Carnavon vont s'attarder sur ce travail très long. Et finalement, ils vont pouvoir, après avoir terminé, tirer les verrous, ouvrir les battants, et à l'intérieur, ils vont se retrouver devant une nouvelle porte, enfin une nouvelle série de portes verrouillées. Et finalement, là, ils avaient vu quelque chose d'absolument éblouissant, c'était des autels avec des portes qui étaient entièrement dorées, et enfin, ils trouvent leur premier sceau intact. C'était la première fois que l'on retrouvait quelque chose d'intact pour un pharaon. Et ce tout petit pharaon qui a été Toutankhamon, complètement oublié sous une petite hutte, qui elle-même était une hutte d'archéologue, on ne met jamais près de la tombe de tous ces grands, il peut y avoir une dernière tombe. Ces deux-là y avaient cru, ils l'avaient trouvé, ils étaient tombés rapidement sur l'escalier lorsqu'ils avaient démoli la petite maison. Mais finalement, pour une fois, on tombait sur quelque chose d'intact. Un pharaon dans toute sa splendeur de ses 3300 ans. Maintenant, il suffisait de pénétrer. Les autels d'or, je l'ai dit, cette pénétration va être longue. Et ce qui va les décevoir, c'est en fait le sarcophage. Il y avait des bandelettes de lin qui dissimulaient un peu tout. Enfin, vous voyez cet emballage, on met du lin un peu partout. Ils se disent, et finalement, on retire ces nombreuses couches et enfin, on aperçoit un cercueil. Ça, c'était quelque chose qui a dû être extraordinaire. À couper le souffle, ça, c'est le mot qui convient, entièrement en or. C'est la première fois aussi qu'on se retrouve devant une matière aussi dense. Et là, C'était le roi lui-même, comme enveloppé dans un linceul moulant le corps et orné d'incisions. Attention, je parle de métal précieux. C'était reproduit dans le métal précieux. Le visage, les mains sculptées en ronde bosse, prêt à s'animer, prêt... Il manquait simplement la petite étincelle de vie. Ses bras croisés sous la poitrine, il tenait les insignes de sa royauté. Il y avait l'éventail, la crosse, son visage avec ses feuilles d'or, ses yeux, ce côté noir et blanc, l'obsidienne, des cils, des sourcils, de lapis-lazuli. Ce front aussi avec les symboles de la haute et de la basse Égypte. Vous savez, le cobra, le vautour, dans une pâte de couleurs extrêmement vives. Cette couronne de fleurs, ça doit être un instant fantastique. Une toute petite couronne de fleurs séchées qui avait été certainement posée par la reine. C'était son dernier hommage à son roi. Et ces fleurs fanées, dès qu'on les a touchées, elles ont pratiquement disparu. Elles étaient encore légèrement colorées. Ben oui, c'était un moment très émouvant. Au-delà de toute expression, c'est vrai qu'on annihilait d'un seul coup, à ce moment, les 3000 ans d'histoire. J'étais à deux pas de ces souvenirs là-haut, admirant la montagne sacrée et les vallées. Je suivais simplement le cours nonchalant de ce Nil. Je suivais ce disque qui maintenant devenait rouge et qui partait pour le bonheur des vivants vers l'éternité des pharaons, des grands pharaons d'Égypte.
Magnifique voyage, merci Maurice, et nous attendons déjà avec impatience votre rendez-vous de la semaine prochaine.